maintenant à la détection électrique. En dire un petit mot, du reste, vous le reverrez ce soir dans les cassettes de magnétoscope. On y reviendra au moment de la thérapeutique, mais on peut vous savoir qu'il existe au niveau de la peau des points qui sont conducteurs de l'électricité et d'autres qui sont résistants. Cette notion de point conducteur a été développée depuis la fin de la dernière guerre et particulièrement par Jacques Niboguet. Mais lui avait une étude systématique et il est arrivé à prouver dans une thèse de doctorat en sciences que les points qui étaient décrits par les Chinois, comme les points dits points chinois, avaient une caractéristique électrique très particulière. Ils sont conducteurs de l'électricité, plus conducteurs que l'environnement. Et il y a une grande différence entre cette conductibilité et l'environnement. Ça ne veut pas dire que tous les points ont la même facilité pour laisser passer le courant électrique, mais cela veut dire qu'il y a toujours une différence entre le point et l'environnement. Cette espèce de contraste qui existe entre un centre et ce qui l'entoure est assez particulier et assez significatif du point que nous avons appelé et que les points chinois, qui a été décrit par les extrêmes orientaux, et des points qui se retrouvent à l'oreille et qui sont pathologiques. Et ce contraste qui faisait du point un lieu plus particulier pour le passage du courant, je l'ai étudié et j'en ai fait aussi une étude inverse, c'est-à-dire que j'ai découvert sur l'oreille se trouvaient des points plus résistants, mais toujours dans un contexte, alors au contraire, de plus grande conductibilité. Vous avez donc des points très conducteurs, des points très résistants. Et les points très conducteurs et les points très résistants vont pouvoir être étudiés. Pas tous, avec n'importe quel détecteur, mais certains détecteurs permettront de trouver les deux points. Certains détecteurs permettront de trouver qu'un seul point. Ce sont les détecteurs simples. C'est la détection électrique élémentaire, celle qui date déjà de 20 ans et qui s'est développée et qui a donné lieu à des quantités d'appareils. Je me souviens encore de l'appareil qui avait été fait par l'ingénieur Pourret en Suisse et qui portait le nom de Niboguet Schmidt. Et l'ingénieur Pourret avait fait un appareil très remarquable qui montrait avec une petite lampe, justement programmée pour un courant faible, qui montrait le point que l'on avait à traiter. Mais c'était surtout pour les points chinois. Voici le principe de l'appareil. Vous avez une masse. Une masse, en général, c'est une poignée qui est tenue par le patient. Vous avez une batterie que j'ai mis en P, batterie électrique, représentée par une pile, par tout ce que vous voudrez, un contact, un interrupteur que l'on ferme ou que l'on ouvre, suivant qu'on se veut se servir l'appareil ou qu'on le met au repos. Un milli ou un micro ampère-mètre et une pointe détectrice. Ici, voilà la peau. Et l'ensemble est donc, c'est très schématisé, la peau, c'est-à-dire la main du patient tient à la masse, et le médecin déplace le détecteur pontiforme au niveau de la peau. Il observe l'aiguille du micro-ampère-mètre, et quand l'aiguille se déplace d'une manière très importante, ça a été la première constatation, il dit attention, il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose. Ce détecteur est le détecteur direct. Il ne tient pas compte de l'environnement de la peau. Il dit bonne conductibilité. Voilà. c'est tout. On ne peut pas repérer les points très résistants vis-à-vis de l'environnement, c'est pas possible. Ce ne serait pas possible, l'aiguille ne se déplacerait pas, on verrait rien. Mais on voit les gros déplacements. Ennui de cet appareil si la personne transpire, parce qu'alors on trouve des poids, on en trouve beaucoup, ça bouge partout. Et à l'oreille, vous avez des zones qui transpirent. C'est les zones qui sont au fond des vallées, puisque vous avez des monts et des vallées. Vous avez des reliefs qui cachent sous leurs plis des zones qui transpirent. Eh bien, ces transpirations font déplacer l'aiguille du micro-ampèremètre. Alors, ce sont des artefacts, ce sont de faux points. Et il est évident que si vous connaissez très bien vos localisations, ce sera quand même un appareil pratique. Pourquoi ? Parce que souvent, ce sont des appareils petits, ce sont des appareils maniables. Ce sont des appareils pour voir les points au lit du malade. Voici un appareil qui s'appelle le SD43, qui est basé sur ce principe. Il a naturellement, et il faut toujours qu'au moins ces appareils aient une qualité, c'est une pointe rétractable, c'est-à-dire qu'elle est montée sur ressort, car vous comprendrez aisément que quel que soit le point que vous explorez, si vous appuyez comme un sourd, et à la limite si vous traversez le derme, ben vous aurez un gros déplacement d'aiguille, ou vous aurez un très gros déplacement, ou vous aurez l'indication par la lumière, ici c'est sur la lumière. Vous programmez la résistance que vous voulez observer par ce petit bouton, et vous observez l'éclairement d'une petite lampe diode qui s'allume lorsque vous êtes arrivé à ce que vous voulez obtenir. Alors vous rendez l'appareil plus ou moins sensible suivant que la peau est plus ou moins dans un ensemble conductrice. Vous faites donc un travail d'approche avec ces détecteurs simples. Vous avez des détecteurs, là je vous montre celui-là, il en existe d'autres que je n'ai pas sous transparent, qui sont des détecteurs qui marchent avec des fréquences qui sonorent, et alors vous déplacez votre stylet sur l'oreille et vous entendez comme le bruit d'une sirène. Alors à mesure que le bruit s'élève, c'est que la conductibilité du point est grande, c'est-à-dire que le courant passe plus. C'est une méthode très pratique et très intéressante, et je me suis servi de ces appareils. C'est très pratique et il n'a qu'un seul inconvénient, c'est que, je vous l'expliquerai plus tard, il n'est pas bon que l'organisme reçoive certaines fréquences électriques, même dans un temps court. Et alors lorsque l'on passe l'appareil pour la détection, eh bien ça peut servir malheureusement de thérapeutique. Je dis malheureusement parce que quelquefois c'est bon et puis quelquefois c'est mauvais. Et quand c'est mauvais, en général, c'est assez mauvais. Et j'ai malheureusement vu des malades qui avaient été traités par cette méthode un peu aveugle et qui en avaient eu des résultats mauvais. Moi-même, je me souviens, il y a ça à peu près, ça fait à peu près plus de 17 ans, 18 ans, j'ai exploré avec ces détecteurs à fréquence, j'ai exploré un malade, non seulement l'oreille, mais la partie crânienne, et en particulier un point, parce que je connaissais l'acupuncture, un point chinois qui s'appelle le Fai Roe. Or, le monsieur en question, la réponse aussi à la question du monsieur tout à l'heure, était un artiste, un vieux monsieur, professeur de violon. Et ce professeur de violon avait déjà une tendance à une certaine surdité. Et il avait voulu que je le soigne, il avait donné des sons à l'un de mes enfants, et il a voulu que je le soigne. Alors j'ai exploré les points, simplement exploré les points. Eh bien il a prétendu que ça avait baissé son audition. Et c'est ce point-là, ce point le pas héroïque qui avait dû jouer, je me souviens. J'ai eu d'autre part, en sens inverse, par la simple exploration de l'oreille, obtenue chez une personne qui allait avoir une intervention sur la thyroïde, c'est une personne sensible, très sensible, une guérison totale qui a duré pendant 15 ans. C'était tout à fait au début et qui a duré jusqu'à ces dernières années. Après, elle a fait d'autres choses, mais le seul fait de passer le détecteur aux endroits, j'ai passé le détecteur, je ne dis pas la thérapeutique détecteur, et c'est une thérapeutique involontaire. Quand on passe des fréquences, eh bien, j'ai eu un résultat sur la thyroïde et un résultat très intéressant. Tout ça serait merveilleux si on pouvait savoir ce que l'on fait. Or, l'auriculothérapie, comme l'auriculomédecine, ne peut se développer que si vous comprenez, comme l'a dit tout à l'heure René Kovacs, ce que vous faites. Quand vous ne savez pas ce que vous faites, eh ben, vous n'êtes pas satisfait, d'une part, et vous ne pouvez pas faire de progrès. Et nous cherchons, que nous soyons en Espagne, que nous soyons en France, en Allemagne, ou en Angleterre ou en Amérique, tous ceux qui s'intéressent à la l'auriculomédecine cherchent la raison d'être de tel ou tel résultat et de telle ou telle réaction. On cherche à comprendre ce que l'on fait.
D'ailleurs, je crois que l'on tire au moins, même certainement, davantage de profit de certains résultats inattendus qui sont codifiés et qui vous sont donnés. Je me souviens avoir traité une malade pour dépression avec deux points, on vous en parlera. Eh bien, cette jeune femme est venue très contente, me remerciant de lui avoir enlevé le tabac. Alors, j'essaye de faire le faux modeste. Je dis pourquoi ? Il dit non, mais tu vois, mis ces deux points, et depuis je ne fume plus, alors c'est très bien de ne pas me prévenir, comme ça on ne peut pas dire que j'étais influencé, qu'il y a eu une suggestion, etc. J'ai pris note de ces deux points en disant qu'il faudra étudier pourquoi et comment il agit. C'est évident qu'il s'agissait d'un problème de dépression. Très souvent, les gens fument parce qu'ils ont des problèmes. Et, pardon ? Une compensation orale. Il est de fait qu'en agissant sur la dépression, j'ai peut-être gommé les raisons qui avaient fait fumer cette jeune femme. C'est tout possible. Comme quoi, tous les chemins mènent à Rome. Mais ça peut être intéressant de savoir si jamais il y a, dans certains cas, de fumeurs à suite de problèmes de tension psychique, et non pas simplement cette chose vile, sordide, qui consiste à imiter le voisin et à faire comme les autres, parce que c'est comme ça que les jeunes commencent toujours à fumer. Eh bien, si vous soignez une dépression, vous soignez, ipso facto, la cause de l'intoxication tabagique, et avec une simple ponture de deux points antidépression, on a obtenu la disparition totale et définitive du tabac. J'ai une jeune femme qui fumait environ un paquet et demi par jour, avec une seule fois, en aiguille semi-permanente, je dois vous le dire, et également l'application d'un appareil qui, on ne vous a pas encore parlé, mais je vais me précéder un petit peu, c'est le Theramagnétique. Je crois qu'on n'a pas encore tout dit au sujet de cet appareil. On va vous le présenter par la suite. C'est un appareil qui débite actuellement, dans sa formule la plus moderne, un champ électromagnétique de 400 gauss, et vous pourrez littéralement, grâce à la ferrite, orienter et bombarder toujours ce tragus, ce merveilleux tragus, cette bonne à tout faire, qui vous ouvre la voie royale, et de ce fait obtenir des modifications extraordinaires. Puisque nous parlons des appareils, je voudrais rajouter encore un mot au sujet de ce Theramagnétique. C'est quelque chose, un épisode qui a été vécu il n'y a pas longtemps et qui est le suivant. À Valence, il y avait un malade extrêmement connu du fait d'un grand constructeur immobilier qui avait un cordon. Vous savez ce que c'est qu'un cordon ? Une tumeur de la corde dorsale, oui, à peu près au niveau de la queue de cheval. Il avait subi déjà trois interventions, on lui avait sectionné les nerfs, et il souffrait le martyr. Il devait retourner à Houston, parce que Houston semble être la Mecque pour le moment. On va à Houston, ça fait très bien. On meurt aussi à Houston le samedi après-midi, parce que le samedi après-midi, un malade illustre espagnol n'avait personne pour lui maintenir en fonctionnement son appareil de respiration. Et il est mort. Le duc d'Albe, à Houston. Donc ça arrive partout. Quoi qu'il en soit, cet homme souffrait le martyr. On ne pouvait pas le recevoir à Houston avant un certain temps de date. Il est venu de Valence avec son médecin me voir. Eh bien, je lui fais des points classiques et je lui ai mis le terrain magnétique. Il est parti de là, il est resté 3 jours. Il est parti de là et pendant 2 heures, cet homme n'a plus souffert. Alors qu'il avait 6 morphines par jour. Et son médecin est avec lui pour l'injecter. Avec 2 points et le terrain magnétique. Au bout de 2 heures, la douleur est revenue. D'autant plus intense que il pensait que c'était terminé. Le lendemain, il a eu une même application, des mêmes points, puisqu'il s'agit de ces deux semaines permanentes. Et cette fois-ci, j'ai augmenté très légèrement la dose. Il y avait eu 7 minutes de terrain magnétique. 2 minutes de plus, 9 minutes. Cet homme est resté 3 heures ce jour-là sans douleur. Et il a compris que plus on mettait du terrain magnétique jusqu'à un certain point, comme vous allez voir, je suis arrivé jusqu'à 15 minutes, mais ensuite, même si on mettait plus de 15 minutes, il n'y avait pas d'amélioration. Mais il est resté jusqu'à 7 heures sans douleur. Autrement dit, quand il était bien au point et qu'il savait que 7 heures il serait sans douleur, il est reparti à Valence où 2 autres médecins qui le suivaient l'attendaient en bas de l'avion. Ils l'ont vu descendre, puisqu'il était dans la période de ces 7 heures, étant donné que je lui ai fait la dernière séance. Avant de partir à l'aéroport, il est arrivé, le sourire aux lèvres, et descendant tranquillement, presque en sautillant, alors qu'il ne pouvait même pas marcher, l'escalier. Je lui ai confié, je lui ai donné mon terrain magnétique. J'en avais un autre. Naturellement, il l'a cassé. Il me l'a renvoyé, mais jusqu'au moment où il est parti à Houston, c'est un homme qui pratiquement n'a pas souffert. Dès que les 6 ou 7 heures se terminer, il refaisait une séance de terrain magnétique sans que les aiguilles n'aient jamais été changées, puisque le laps de temps était suffisant, les aiguilles semi-permanentes, effectivement, tombent au bout de 15 jours à 3 semaines, enfin sont expulsées par l'organisme généralement au cours de cette période, bien que mon record soit de 217 jours. Je crois que tu as eu un cas.
Oui, je ne suis pas, je crois, celui qui a battu tous les records, j'ai un de mes élèves qui a eu. Il a gardé plus d'un an les aiguilles, c'était pas mal. Enfin, j'ai vu facilement, c'était 8 mois.
Oui, 217 jours, pour moi, c'était mon record pour le moment. Une dame qui est d'ailleurs guérie, c'est une névralgie du trijumeau. Eh bien, elle n'a plus depuis un an et demi à peu près, enfin, si on peut dire ça guérie. Quoi qu'il en soit, cet homme a pu vivre sans morphine jusqu'à ce moment du départ de Houston. Et j'ai donné maintenant le terrain magnétique à réparer, mais je crois que ça valait la peine qu'il puisse être un petit peu en mauvais état, parce que cet homme souffrait le martyr. Une tumeur de la corde dorsale est quelque chose d'absolument atroce.
De l'autre côté, on veut faire une mesure des points à disperser. On bascule le petit levier de l'autre côté de l'endroit où se trouve le pinceau. Et, on prend l'appareil, on appuie le capteur à l'épouse et on déplace ce capteur tangentiellement au plan de l'oreille. Il ne s'agit plus d'agir perpendiculairement, mais tangentiellement, car c'est la seule manière de mettre en évidence les points qu'il est nécessaire de disperser. Mais dans ce cas, on met aussi le potentiomètre au maximum de sa côte. Voilà, nous avons ici un point qui sort et qui est un point à disperser. Pour qu'un point soit un point à traiter, il est nécessaire que la sonnerie continue et ne s'arrête pas au bout de quelques secondes. Car si elle s'arrête, on a affaire à des points que l'on appelle des points labiles, des points qui ne sont pas fixes et qui n'ont que peu d'intérêt car ce sont des points fonctionnels et qui ne correspondent pas à un organe malade. Le compteur doit être connu comme appareil afin que chaque jour, au moment où vous faites
vous êtes une épouse malade, vous n'ayez pas d'ennui. Observez bien le capteur et l'extrémité de ce capteur qui peut s'encrasser avec des débris d'herbivore. Et il est nécessaire de temps en temps d'opérer un nettoyage. D'autre part, cet appareil est autonome, c'est-à-dire qu'il est monté sur pile. Pour qu'il fonctionne normalement, il est nécessaire que les piles soient en bon état et heureusement, elles peuvent se maintenir en état longtemps. Lorsque l'appareil commence à sonner spontanément, sans appui, ou lorsque l'on remue le potentiomètre en augmentant sa sensibilité, c'est un signe que les piles ont épuisé leur voltage et on est obligé de les changer. Vous avez ici un bouton très facile à dévisser et on change une petite pile à l'intérieur qu'on trouve assez facile. Cette détection, qui est une détection dite différentielle, puisqu'elle mesure un point vis-à-vis de l'environnement, est une mesure idéale. Mais il arrive quelquefois que l'on est fort pressé et que cette détection est un peu longue, surtout lorsqu'on se trouve au chevet d'un malade. Et plusieurs confrères apprécient l'emploi d'un appareil plus simple, peut-être un peu moins fiable dans la qualité des points qui sont repérés, et il s'agit d'un repérage direct de sensibilité. Et c'est le rôle dévolu à cet appareil qui s'appelle le SD43. Le SD43 n'a pas de détection différentielle, mais une détection directe des points de l'oreille qui sont de plus faible résistance. La masse est tenue par l'appareil et constituée par cette espèce de partie métallique enroulée. Et le signal n'est plus un signal sonore, c'est un signal visuel, constitué par cette petite diode qui s'allume lorsque le point est de faible résistance. Encore ici, on trouve un potentiomètre de réglage qui augmente la sensibilité de l'appareil en tournant dans le sens des aiguilles du rond. Il diminue cette sensibilité lorsqu'on tourne dans le sens inverse des aiguilles du monde. À l'extrémité du corps de l'appareil se trouve une pointe mousse métallique montée sur ressort, insiste beaucoup sur le fait de ce montage télescopique et la suite. Pourquoi? Parce que vous savez comme moi que lorsque on appuie plus fort sur un point, la résistance varie. Il est donc nécessaire d'avoir un appui constant pour comparer un point vis-à-vis du point voisin. La détection est très simple. On appuie sur chaque point perpendiculairement à ce point d'une manière très légère et on observe sur le tableau de bord de l'appareil, à l'endroit où se trouve le potentiomètre, la petite gueule qui s'éclaire dans des cas très précis où le point est à détecter. Si, avec...
Quelques années plus tard, le docteur Neugier nous présente le diascope.
Alors, le diascope. Le diascope est un appareil nouveau, c'est un appareil qui est absolument dans la ligne du ponctoscope, et le ponctoscope nous l'avons tous oublié, vous êtes bien d'accord, on n'en s'en sert plus, on se sert du pouls. Eh bien, chose extraordinaire, actuellement je me sers du diascope en même temps que je me sers du pouls. Pourquoi? Vous allez tout de suite comprendre l'importance. D'abord, c'est un appareil qui est basé exactement sur le même principe que le ponctoscope. Il a une double détection, axe et tube. Et cette détection est faite d'une manière beaucoup plus habile qu'avec le capteur du car le palpeur, le capteur est beaucoup plus léger au point de vue des ressorts. C'est très important. Avec le capteur du bronchoscope, on martelait, on modifiait peut-être un peu la peau en faisant des explorations trop prolongées à l'oreille. Et alors, celui qui voulait trouver un point, le trouvait. Avec un peu de persévérance, il n'y avait qu'à triturer, titiller, au bout d'un certain temps, ça sonnait. Alors on était très contents, hein. Alors on était très satisfaits, et le malade aussi. Mais sauf au moment du résultat thérapeutique qui, quelquefois, ne correspondait pas à la découverte qu'on avait faite. D'autre part, entre le point repéré, marqué profondément sur la peau de l'oreille par l'appui du capteur, et l'aiguille posée, il y avait un monde. En ce sens, il fallait véritablement avoir un bon éclairage pour taper sur le point juste. Alors, le diascope est né au bout d'un certain nombre d'années, parce que je ne sais pas combien il a comme âge, le bronchoscope. Pour moi, dans l'histoire de l'auriculothérapie, ça se compte presque en siècle. Et le diascope est né avec des caractéristiques meilleures, en ce sens que le capteur est plus léger, au point de vue ressort, n'abîme pas la peau, et d'autre part, les montages électroniques sont plus performants, à savoir que le diascope repère même lorsqu'il y a des résistances de cutanées très, très élevées. Alors, ces résistances sont cependant quelquefois importantes et doivent permettre une détection parfaite. Et lorsque le diascope est employé, on est très frappé de voir que c'est tout à fait différent qu'avec tous les autres détecteurs. Vous ne trouvez pratiquement pas de point. Vous êtes là, vous cherchez et vous ne trouvez pas de point. Et pourtant, vous avez bien demandé au patient d'appuyer sur la touche noire, qui est la touche de contact, bien au centre, comme il faut. Vous dites, ça y est, il a mal appuyé, ou je n'ai pas mis suffisamment de sensibilité à l'appareil, puisque il y a une touche de sensibilité. Vous l'avez été même au maximum les premiers temps, parce que vous dites, c'est pas possible, j'essaye 2-3 points et ça ne sonne pas. Et ça ne sonne pas au bout de quelquefois 15 points, 20 points. Mais il ne faut pas se décourager. Parce que l'appareil, justement, ne repère que les points pathologiques. Il ne repère pas les points que vous voulez repérer. Et qui ne seraient que les manifestations, ou je prends ça pour moi aussi, que les manifestations de notre ignorance. Nous n'avons pas suffisamment étudié le malade, nous n'avons pas compris exactement le mal dont il souffrait, nous avons attaqué un point local alors qu'il fallait un point régional ou un point central, et nous n'avons pas compris le génie de sa maladie. Mais le diascope, lui, il le comprendra à condition que vous repériez le point. Alors, cet appareil est à la fois l'appareil du premier et du troisième degré. J'estime pas du deuxième degré. Il est du premier degré en ce sens que pour les débutants, il est agréable d'avoir un appareil qui détecte quelque chose et qui donne une satisfaction et un peu de sécurisation pour celui qui ne connaît pas l'oreille. Et puis c'est un appareil du troisième degré parce que à ce niveau-là, nous programmons le point probable, la zone probable où nous allons trouver le point. Nous programmons avec le pouls. Moi, je prépare mon oreille par le pouls lorsque j'arrive à ces phases dont je vous ai parlé, l'isolement par la phase parasite du point qui doit être piqué. Nous avons une zone, malgré tout, il y a une petite zone de 1 cm². Et c'est dans ce demi-cm² que de dixième de millimètre en dixième de millimètre, nous palpons. Et nous trouvons le point. Lorsque nous avons trouvé le point, nous demandons au malade de passer du plot détection au plot en dessous qui est le plot rouge. Alors, il se produit, et je vous le signale, ça va arriver chez vous si vous le faites, le phénomène suivant. La malade est étendue ou le malade, alors il dit plot rouge. Bon, il bouge la tête pour voir le plot rouge. À ce moment-là, votre détecteur est déjà en dehors du point que vous avez détecté. Alors, il faut recommencer. Alors, ils savent ce que c'est que le plot rouge. Plot rouge parce que vous avez voulu être trop pressé et vous ne leur avez pas expliqué avant qu'il fallait faire simplement 2 cm de déplacement de leur pouce. Lorsque vous avez donc bien repéré le point, sans bouger le doigt, vous demandez au client de passer au plot traitement. Et ce plot traitement fait déclencher un signal et le faire entendre, car si vous appuyez sur les deux plots à la fois, vous le déclenchez. Je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà. Alors, vous avez là un signal qui est un signal de courant alternatif, très simple, à 15 ou entre 45 et 50 microampères, c'est-à-dire petit, mais suffisamment important pour pouvoir être efficace, qui va traiter le point à la fréquence U, à la fréquence que nous connaissons bien depuis deuxième degré, qui est la fréquence de l'EMS, la première, celle qui est universelle. Elle est aussi importante, aussi efficace pour des zones qui sont des zones à tonifier, des zones à disperser, des zones qui sont de telle ou telle fréquence, si je veux dire au point de vue des plages. Partout, cette fréquence de 1 Hz est efficace. Eh bien, lorsque vous faites d'abord que vous utilisez cet appareil, vous allez voir combien cela remet, ça vous remet sur pied les véritables localisations. Vous êtes obligé de comprendre, si vous ne voulez pas perdre un temps fou, à chercher n'importe quel point sur l'oreille. Vous allez trouver n'importe quoi. Alors vous êtes obligé de comprendre. C'est donc saignant pour l'esprit. Et ce n'est non seulement saignant pour l'esprit, mais c'est aussi très efficace. Lorsque vous avez un point que vous avez bien isolé, vous laissez passer 40 ou 50 impulsions, et le malade, s'il a une douleur, s'il présente une douleur, va être un peu soulagé ou rien du tout. Mais supposez qu'il le soit, un peu soulagé, vous êtes tranquille. Vous avez à ce moment-là une amélioration qui se prépare, qui va se développer, et dans les minutes ou les heures qui vont suivre. Le courant de détection est un courant qui est faible. Il est de l'ordre de 1 à 2 microampères. C'est petit, c'est pas important. Pas de risque de perturbation au niveau de la détection, ça vaut la peine. Pas de risque au point de vue des modifications mécaniques de la peau, pas de risque au point de vue du passage du courant, ou de microampères ne correspond pas à des courants qui sont stimulants, et vous pouvez avoir de bons résultats. Alors je vous donne tout de suite 2 performances qui sont absolument extraordinaires de cet appareil, qui ne sont pas ailleurs et qu'aucun appareil n'a jamais réussi à faire. Premièrement, j'ai eu l'occasion de soigner des gens qui avaient pour le tabac. Eh bien, si la personne arrive en carence, et ça a été le cas récent qui s'est produit lors d'un interview qu'on m'a demandé de Barcelone. Alors, ça s'est passé il y a 2 jours. Le journaliste est venu avec une jeune femme qui était chargée d'être expérimentée. Il fallait absolument essayer le programme anti-tabac, il fallait voir comment je me servais de mes instruments. Et comme j'étais avec le diascope entre les mains, j'ai donc repéré les points du tabac. Et je les ai repérés sans difficulté. Ils sont venus tout de suite. Les 3 points que je vous indique, et les derniers que je fais, si vous voulez, je vous les marquerai sur un papier ou sur un transparent, eh bien, ça a été fait tout de suite. Et quand j'ai de nouveau repris, après les avoir notés, ces points avec la technique du pouls, j'ai retrouvé exactement les mêmes points. Le fameux triangle, un triangle qui se passe entre la conque et le tragus. Eh bien, ce diascope est capable, premièrement, de repérer des points de carence, des points de privation. Mais il a une autre application expérimentale qui est inouïe. Et si vous repérez une zone, par exemple la zone du pouce, qui, dans l'ancienne localisation de Fillon, est là où vous savez, au sommet de l'oreille, dans la partie postéro-externe. Dans ces conditions-là, avec cet appareil, vous pouvez très bien explorer pendant, pendant une minute, si vous voulez, tous les points de la zone. Et vous n'avez aucune réponse, si l'individu est en bonne santé. Fort de cette exploration, vous allez refaire ce que j'avais fait autrefois pour l'évocation, pour la douleur évoquée au pavillon. C'est-à-dire que vous pincez une articulation, vous pincez la peau de du pouce au niveau de son extrémité, avec ce que vous voulez. Il faut à ce moment-là attendre une minute ou deux minutes. Et au bout de ce laps de temps, le point s'allume. C'est vraiment une détection objective. Il s'allume dans la phase FI1 pour la question de sensibilité. Si vous voulez avoir des détections de motricité, c'est-à-dire si vous épuisez l'énergie au niveau d'une articulation en bougeant par exemple le pouce comme ceci pendant deux minutes, eh bien, après un temps de latence, dans la phase FI2, au niveau de l'articulation du pouce, le point s'allume. Alors que vous avez exploré la région avant et qu'il n'y avait rigoureusement rien. On a donc, et ceci n'est qu'un début, on a donc la possibilité, avec cet appareil, pour la première fois, nous avons la possibilité d'objectiver d'une manière très nette les localisations périphériques du corps. Pas celles qui se trouvent évidemment par les viscères, mais c'est déjà très beau de pouvoir prouver à quelqu'un qui est sceptique que ces localisations ne sont pas des vues de l'esprit. Je pense donc que dans la démonstration des correspondances entre le pavillon de l'oreille et le corps, ce diascope arrive en numéro 1. Et parce qu'il arrive en numéro 1, et il est capable de faire justement des détections magnifiques au point de vue des points malades. Et ce qui est frappant, c'est la concordance des résultats thérapeutiques dans un délai extrêmement court. Si on a un tout petit peu la notion des points, de la topographie, on est frappé par le résultat. Moi, je suis frappé. Et puis enfin, il a un avantage, car nous sommes tous des originaux, nous les médecins, et eh bien nous pouvons nous soigner nous-mêmes. La première fois. C'est quand même intéressant, parce qu'on n'a jamais le temps, on a une confiance illimitée dans le copain, naturellement, forcément. Et je vois que c'est bien le général, mais quand même, on a aussi un petit peu confiance en soi, et on se dit, si jamais je pouvais me soulager un peu, quand même, eh bien ça arrive. C'est merveilleux et ça vaut la peine. Parce qu'il n'y a pas d'autre appareil qui est capable de faire ça. Voilà donc un appareil. Alors il a aussi une propriété qui n'est pas donnée à tous les instruments. Lorsque on a détecté un point et qu'on passe au traitement et qu'on n'a pas bougé du tout son capteur, il arrive que le traitement ne fonctionne pas. Eh bien, ceci est dû au fait que l'ingénieur qui a étudié cette affaire, ce n'est pas moi, je ne suis absolument pour rien, sauf dans le principe autrefois du capteur que j'avais étudié il y a de nombreuses années, mais je ne suis pour rien dans cet appareil. Alors, il arrive donc que ça ne marche pas à la fiche traitement. Eh bien, c'est parce que l'ingénieur a conçu des résistances pour que seuls les points de faible résistance, les plus faibles, soient traités. et cela élimine les points factices, les points fonctionnels, qui déjà sont bien éliminés par la détection et ensuite sont éliminés par le traitement. Alors vous saurez éventuellement qu'on peut, avec cet instrument, à la fois détecter et à faire... C'est vraiment, je ne sais pas, c'est vraiment ce que nous espérions depuis fort longtemps, et je peux vous dire que spontanément, j'ai reçu un petit mot de Borsarello, qui lui l'emploie pour l'acupuncture générale avec le capteur ancien, moi je ne sais pas ce qu'il fait au niveau de l'oreille, je crois qu'il ne travaille pas l'oreille, et qui m'a envoyé une lettre en me disant, j'ai essayé ça, il pensait que j'étais à la base des appareils, je ne suis pas à la base, mais il m'a envoyé un petit mot après le séminaire qu'il a fait ici, il était très satisfait, et j'ai su, à moins qu'il y ait une erreur, j'ai su par Bricot, il doit être par là, il est là-bas, oui, il n'est pas toujours là. Et Bricot m'a dit que Niboyet était très satisfait parce qu'il travaillait avec Niboyet. Voilà, il arrive. N'est-ce pas, Bricot, que Niboyet était satisfait du diascope?
Ah, il est enchanté parce que...
Voilà.
Vous savez que Niboyet prend très bien avec les Chinois et qu'il arrive par le tout à faire des diagnostics faramineux et notamment quand un bout est absent ou en avant. Il arrive à les rééquilibrer de façon parfaite. Et le diascope les rééquilibre instantanément de façon parfaite.
Ah, vous voyez que même Niboyet, qui lui n'était pas très chaud pour les détecteurs, c'est que au début, il n'était pas enthousiaste. Alors, vous voyez, la détection peut être faite non seulement au point de vue du traitement, la sélection, mais au niveau de la détection, il suffit de diminuer le réglage du potentiel. Pourtant, et c'est là où vous pouvez mettre une aiguille semi-permanente. Parce que cette aiguille, alors, aura un effet beaucoup plus important que si c'est un simple point qui est facilement détectable. Voilà ce que je voulais vous dire en ce qui concerne notre pratique journalière. C'est-à-dire que la pratique journalière, maintenant, est à moitié, pas à moitié, mais enfin, beaucoup... utilise pas mal, si je veux dire, un détecteur à côté de la prise du pouls, en voyant les résultats. On a l'impression que quand vous touchez le point exactement à peut-être un vingtième de millimètre près, les résultats sont tout à fait différents de ceux que vous obtenez quand vous êtes à côté. Alors, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. C'est même impressionnant. Et donc, on peut à l'avance... presque dire au malade, si il y a la moindre amélioration, on peut dire ça va marcher. On vu encore hier, on était ensemble, on était dans le groupe, chez moi, j'ai vu disparaître des douleurs qui dataient d'années ou qui dataient de très longtemps et qu'on ne pouvait pas faire de bonne 11, 79, 8 ans. Alors, monsieur Jacob a une... si vous voulez, je l'ai examiné comme j'examine tous les malades, je crois que je vous ai examiné comme il faut la première fois, vous n'avez pas à vous plaindre, ni M. Julien non plus, on l'avait bien examiné, on s'est donné beaucoup de peine, et je me suis dit, on va trouver, parce que c'est pas possible, quelqu'un qui souffre ne doit pas souffrir. Alors j'avais trouvé deux points d'oreille, un à l'argent et l'autre à l'or, qui était un point en avant, si vous voulez, vers la ligne en somme, j'avais vu des blocages, j'avais vu toutes sortes de signes qui m'indiquaient que ces deux points étaient bons. Je me suis dit, on va voir un résultat. Résultat zéro. Et puis, je revois M. Guillaume le 11 décembre et il me signale qu'il avait été même voir le docteur Maigne à Paris. Il lui a donné un résultat qui était nul. Et c'est alors que j'ai pensé employer pour lui uniquement, étant donné que tout avait échoué et qu'on avait travaillé comme il faut, le diascope. Alors j'ai repéré au diascope, j'ai repéré les deux points coccygiens, l'ancien et le nouveau. Voilà. Et le deuxième, du deuxième et le premier. Non, c'est le premier, le deuxième. La phase 1 et la phase 2. Et je lui ai dit, parce qu'il fallait être prudent, hein, je me suis dit, il était soulagé un peu, je lui ai dit, téléphonez-moi dans 48 heures, si vous, dans 48 heures, il s'est passé pas mieux qu'il reste encore un peu, j'aimerais que, si vous voulez venir, je vous refinirai votre séance devant mes collègues. Alors il m'a téléphoné et ainsi il m'a dit qu'il était un petit peu mieux.
Ça va beaucoup mieux, j'avais toujours mal au dos, mais ça va beaucoup mieux.
Voilà. Lui qui n'avait jamais eu aucun résultat, ça va beaucoup mieux, dit-il, il reste encore quelque chose, c'est ce que nous allons essayer de faire disparaître tout de suite. C'est pour ça que vous aurez la chance, je vais vous traiter immédiatement. Pour monsieur Julien est là. Oui, vous savez ce que ça veut dire quand il dit que ça va beaucoup mieux, hein? Oui, voulez-vous venir, monsieur Julien, s'il vous plaît, parce que c'est votre malade. Voilà, et il avait eu le coccyx manipulé. Allez-y. Voilà, manipulation du coccyx, aucun résultat. C'est ça qui est extraordinaire. On a l'impression que le diascope, vous allez voir tout à l'heure, vous comprendrez mieux ce que je veux dire tout à l'heure. On a l'impression que le diascope, le diascope fait sauter ou neutralise dans une certaine mesure une interface. Car sûrement il peut avoir une interface. Alors voici les points qui avaient été faits d'abord. Là, comme un point maître du coccyx, étant donné que je n'avais peut-être pas trouvé de douleur à la palpation sous la branche montante. Voilà. Eh bien, c'est encore un point du coccyx, mais un point que seul le diascope a donné. Enfin, il l'a donné et je l'ai traité. Alors, je vais recommencer. Je tenais à vous présenter ce malade. Non pas qu'il ait été très très malade, mais il est toujours ennuyeux quand on souffre pendant 8 ans d'une douleur qui persiste.